marche à l'oie. Faudra que ton angoisse disparaisse, se passe. Voilà l'intraveineuse, la solution à cause.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme quasiment tous les mercredis matins de 9h30 à 10h30. Pardon. Bonjour. Et bonjour aux invités. Bonjour Sylvie. Et bonjour Daniel.
Donc, c'est la suite, en fait, on peut dire de, que c'est vrai, une heure, c'est pas long.
De ce qui avait
et donc,
commencé la semaine
dernière émission qu'il a fait, Daniel, moi, on avait, enfin, Denis, tu m'as dit, toi aussi, tu avais des questions, et moi aussi, j'avais des questions. Tu veux ouvrir le tir, Denis?
Le tir, oui, alors...
ah, elle, bon, il est pas fier.
Alors, nous parlions, la semaine dernière, donc, des conditions de travail que tu rencontrais, Daniel, dans une institution psychiatrique.
Oui.
Alors, à cela, que pourrions-nous ajouter dans notre...
Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ?
Révolte de...
On pourrait ajouter peut-être que... Je crois qu'on avait terminé, dans mon souvenir, sur une citation d'un texte très ancien de 1838 d'Esquirol sur la façon dont on soignait alors certaines patientes, certains patients atteints de manie. Et j'avais parlé du fer rouge. Hein.
Oui.
Bon, j'aurais pu ajouter une autre citation, mais où, et je pense que c'est une manière de commencer ou d'ouvrir la discussion.
Oui, tu parles donc d'un écrit des années 1800.
Esquirol, donc 1838, voilà. Grand psychiatre, mm-hmm. Psychiatre éminent, voilà, de l'époque, donc de la grande époque, hein, donc psychiatre de la Salpêtrière. Donc qui soigne, je reviens un peu sur ce point, parce que je trouve que ça ouvre la question, hein, qui soigne une femme, si on peut nommer ça du soin, qui est atteinte d'un trouble de l'humeur, hein, sous forme d'excitation. On parlait à l'époque, et on parle encore de manie. Alors, je prends cette citation, qui est différente de la dernière. Voilà, une fille de 20 ans, de taille élevée, constitution robuste, est amenée à la Salpêtrière dans un état très violent de manie. Hein. Bon, elle est très excitée. Bon, comment fait-on pour la soigner? Alors Esquirol explique, tous les préparatifs étant faits, on emploie la force pour tenir la malade. Elle est si effrayée à la vue du fer rouge qu'elle redouble d'efforts pour s'y soustraire. On la contient par la force, mais aussitôt qu'elle sent le fer approcher, elle fait de nouveaux efforts, se débarrasse des mains, des aides, et reste pendant 5 minutes dans un état complet de raison. Elle demande avec calme ce qu'on veut faire d'elle et prie avec instance qu'on l'épargne. Je consens à différer l'application du fer, à condition que la malade sera désormais raisonnable et tranquille. Elle promet et tient parole, et au bout de 2 jours, elle est transférée dans la division des convalescentes et ne tarde pas à être parfaitement guérie. Elle déclara que la frayeur qu'elle avait eue du fer rouge avait contribué à sa guérison. Au fer chauffé au feu, on peut substituer le fer chauffé dans l'eau bouillante. Fin de citation. Donc ça se situe page 217 du traité des maladies mentales de Esquirol, rubrique La manie, voilà, 1838. Alors je trouve que voilà, tout est dit en quelque sorte. On y retrouve là le paternalisme, le moralisme et l'extrême violence, hein, coercitive, et surtout le traitement. Alors moi, je ne parlerai pas de traitement moral, je parlais de traitement par la peur. Je crois qu'on avait conclu un peu là-dessus, traitement oui. Par la peur. Alors, ce que je voudrais dire en introduction comme ça, c'est que ce que j'ai constaté. Alors le fer rouge, aujourd'hui on parlerait plutôt de, voilà, de médication, alors neuroleptique, et bon, avec tous les effets secondaires dont qu'on a allusivement évoqué la dernière fois peut-être. Mais c'est surtout la peur qui gouverne. Hein.
Oui,
on est en psychiatrie aujourd'hui. Oui. On flippe, hein. Voilà.
Oui, je souligne, là, enfin, je m'aperçois, dans le texte que tu viens de lire, l'association de cette terreur et de la raison.
C'est-à-dire, oui.
Elle est terrorisée, donc elle recouvre la raison.
Oui. Mais les questions que j'aurais eues, moi, par rapport à, justement à la précédente émission, c'est que je pense qu'on est tous d'accord et qu'on génère... Enfin, c'est comme rare maintenant de trouver des gens qui trouvent... Enfin, qui approuvent l'idée de traiter des patients avec un fer rouge. Mais en même temps, moi, la question, c'est plutôt à l'envers. Tu as parlé dans la précédente émission du soin, etc. Or, même... Et de la psychanalyse. Or, moi, la question, c'est aussi... je vois bien ce qu'il ne faut pas faire, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que je suis très dubitative par rapport à tout ce qui peut être les propositions, on va dire, institutionnelles, qui sont quand même rarement, maintenant, il faut le dire, de traiter les patients fer rouge. Je crois qu'on fait peut-être encore des électro...
Chocs, sismothérapie,
ouais.
Bien sûr.
Mais cela dit, ou même le fait de changer les gens en légumes, en les bourrant de médicaments, mais par rapport à des propositions positives, surtout... émanant de gens qui sont des professionnels, tu vois. Je suis absolument pas convaincue, déjà parce que j'ai été les gens que je connais, mon cas personnel, même avec mes enfants, etc. Quand ils faisaient l'école buissonnière et qu'on s'est retrouvés dans les pattes de psy, quoi, si tu veux, j'ai pas été du tout convaincue par les propositions qui étaient bien sûr pas aussi violentes. Mais tu vois, par exemple, on a parlé des associations de gens qui entendent des voix, soit démocratie, par exemple. Où les gens essayent de s'entraider. Et puis d'autre part, je pense que le fait d'avoir besoin de parler à quelqu'un et qu'il soit de préférence, enfin, quelqu'un de, par exemple, même pour l'idée du transfert, qui est l'idée que tu as besoin de quelqu'un qui est neutre pour un petit peu projeter des choses dessus. Admettons qu'on soit d'accord avec cette idée, mais quoique je suis pas convaincue à 100% non plus, mais bon. Mais par exemple, j'avais une copine qui était, je t'en ai parlé, qui était voyante. Elle voyait rien du tout, tu t'en doutes bien. Je crois pas à des foutaises pareilles, mais elle savait très bien qu'elle voyait rien. En revanche, elle disait qu'il y avait des gens qui auraient jamais été voir un psy, parce que c'est pour les fous, ils sont pas fous tout de même, mais qui avaient besoin d'aide psychologique et qui du coup se trouvaient fort bien de pouvoir parler à quelqu'un qui était pas quelqu'un qu'ils connaissent, donc qui les jugerait pas, qui pouvait être vraiment quelqu'un d'extérieur. Et ça semblait très bien marcher. Donc voilà, j'exprime vraiment des doutes sur le fait aussi que il suffirait de savoir ce qui s'est passé dans ton enfance pour que ça te guérisse. Parce que j'ai connu des gens qui ont fait une psychanalyse même à très long terme comme ça, et qui, ma foi, m'ont paru ni pire ni mieux avant qu'après. Et que toi, je t'ai parlé par exemple du cas d'un... mon ex avait un psy, il a fait 20 ans une psychanalyse, et quand il trouvait que le psy avait fait un truc bien, il disait par exemple que, tu sais, c'est des jeux de mots, donc que son croque-mitaine quand il était petit s'appelait Patapon, et le psy a dit, ça veut dire c'est l'anagramme de ton papa. Et alors, bon, alors, il disait, c'est merveilleux, comment qu'il est trop malin et tout. J'ai dit, oui, bon, bah maintenant que tu sais ça, maintenant que tu sais ça, bah, et alors, quoi, tu vois. Donc, bref, voilà, je suis pas indécrotable sur mon scepticisme, on va dire, mais quand même, j'aimerais bien savoir, au-delà de tout ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qui peut réellement faire du bien aux gens, voilà.
Bon, alors, c'est immense, immense, immense question, au pluriel, que tu soulèves. Je vais essayer de, comme je peux, hein, comme je peux, de répondre. Alors d'abord, déjà, je voudrais dire, tout à l'heure, j'ai parlé de fer rouge, c'est évidemment une provocation. On ne soigne pas au fer rouge aujourd'hui. Je voulais juste insister sur le fait qu'il y avait à la fois paternalisme et gouvernement par la peur. Voilà. Alors, sur la question de la psychanalyse et sur la question de ce qui, éventuellement, peut ou non soigner en institution. Alors, écoute, j'avais tenté d'expliquer la dernière fois que j'ai subi une sorte de désillusion quand j'ai vu la manière dont était utilisé l'éclairage analytique ou psychanalytique en institution psychiatrique. Il est possible que dans certaines institutions, cet emploi, cette utilisation soit féconde et utile aux patients. Ce que j'ai vu, moi, c'est une sorte de recyclage invraisemblable, c'est-à-dire invraisemblable au sens à la fois normatif, moralisateur, un détournement, si tu veux, de l'héritage analytique. Alors, dans ce qu'il avait, pas toujours d'ailleurs, mais dans ce qu'il peut avoir parfois, par moment, de novateur, voilà, dans les années 1895, peut-être. Je dis 1895 exprès, parce qu'en 1895, Freud considère encore que dans l'éthiopathogénie du trouble hystérique, le trauma, dans la constitution du trouble hystérique, oui. L'origine traumatique est centrale. Après, il y renonce. Alors, ce qui, pour moi, déjà est une rupture qui pose problème. Bref, je veux dire, avant Freud, enfin la façon dont on soigne, si on peut appeler ça du soin, on ne soigne pas, on enferme les femmes hystériques, les femmes, c'est absolument épouvantable, c'est juste atroce. Il y a quelque chose qui semble changer à un moment, bon, je vais dire dans la façon dont peut-être on tente d'écouter la parole du fou, de l'aliéné, on tente, hein. Je ne pense pas du tout que Freud était un révolutionnaire, du tout, mais enfin... Il y a quand même quelque chose qui change, qui paraît changer à ce moment-là. Bon, bref, j'ai eu l'impression quand même que pour Freud, quelque chose était central, c'était entre ce partage de raison et déraison, quelque chose vacille avec Freud, c'est-à-dire que ce qui nous sépare du fou, si on peut parler comme ça, c'est une question intensive, c'est une question d'intensité. C'est pas que structurellement on est différent, tu vois, ce qui est très dangereux. Voilà.
Tu veux dire que c'est une différence plus quantitative que
quantitative,
qualitative?
Quantitative. D'accord. Bon, quand je suis arrivé, moi, en psychiatrie, ce que j'ai vu, c'est la reconstitution extrêmement autoritaire et inquiétante de ce partage, presque un partage d'essence. Je n'ai vu, quand j'insistais aux réunions, entre soignants, entre psychiatres et entre psychologues, la façon dont on parlait des patients, des patientes, était absolument moraliste, c'est encore trop faible, autoritaire, stigmatisante. On avait vraiment l'impression que les soignants n'aimaient pas du tout les patients. Ce qui était dit sur les psychotiques, enfin, j'aime pas parler comme ça, mais c'était vraiment, vraiment terrible, quoi. Il y avait, voilà, alors, qu'est-ce qui soigne, qu'est-ce qui soigne pas? Moi, ce que alors là, tu fais référence à ces caricatures de jeux de mots un peu lacaniens, là, d'anagrammes, de, pour moi, c'est pathétique, hein. C'est n'importe quoi. Enfin, c'est pointer insignifiant de temps en temps dans une cure, s'amuser avec des jeux de mots, etc. Bon, j'ai vu ça, j'ai assisté à ça, c'est mais désastreux.
Je ne connais pas, je ne suis pas cultivée du tout. Hein. Donc, je ne sais pas, mais est-ce que Lacan, qui est quand même une référence pour beaucoup de psy, si j'ai bien compris, est-ce que Lacan, lui, préconise de faire ce type de diagnostic grâce à des jeux de mots, ou est-ce que c'est une mauvaise interprétation?
Écoute, faire le bilan du lacanisme en si peu de temps, c'est très difficile. Hein. Je pense qu'à partir du moment où il fait école... je pense qu'à partir du moment où il fait école, ça devient un maître. C'est-à-dire que lui-même qui a passé sa vie à dénoncer l'identification imaginaire à la figure de l'analyste en est suscité autant, quoi. C'est-à-dire autant de perroquets qui parlent le lacanien, c'est totalement insupportable. Et ce que je peux juste dire, moi, c'est que ces séances courtes, c'est une catastrophe. Et le paradoxe, hein, c'était pas un paradoxe tant que ça. C'est qu'il a préconisé ce qu'il appelle la scansion, c'est-à-dire pointer un mot signifiant et arrêter la séance à ce moment-là. C'est ce qui produirait des effets de sens, des effets de... Bon. Pour moi, ça ne révèle qu'une seule chose, c'est sa phobie des patients et sa détestation et son ennui à écouter les patients. Ce que je veux dire, c'est que par une étrange coïncidence, quoi. Ce qu'on constate, c'est que c'est parfaitement soluble dans le mouvement des chronomètres qui dirigent le secteur hospitalier. Car c'est là où la psychanalyse, les noces de la psychanalyse et du management ont lieu. C'est-à-dire que le secteur hospitalier actuellement, hein, ne demande rien d'autre que de faire des actes de plus en plus. Hein, c'est-à-dire d'aller vite, d'aller vite, d'aller vite. Donc des séances courtes, c'est parfait, hein, moi c'est ce qu'on me demandait. Donc qu'il y ait un maximum de séances. Or, la première chose, je ne dis pas qu'écouter longtemps suffit à faire du bien à un patient en souffrance, mais en tout cas, l'écouter sans le juger et prendre son temps est fondamental. Or, ce n'est pas ça qui se passe. Ça va trop vite. Déjà, c'est une première chose. Alors, psychanalyse ou remédiation cognitive, peu importe. Je veux dire, si on ne prend pas son temps, ce n'est pas possible. On ne peut rien faire avec un patient. Alors, ce que je vois aussi, c'est...
Est-ce que c'est parce qu'on prend son temps qu'on peut forcément faire quelque chose?
Non.
Je veux dire, c'est peut-être pas efficace quand tu écoutes pas longtemps, mais tu peux tout à fait, effectivement, te dire « Ah bah, je vais l'écouter longtemps », mais que tu le fais pas bien. Donc, c'est pas seulement le temps.
Absolument. Alors, c'est pas seulement le temps. C'est une première chose, le temps. Effectivement, on peut passer quelqu'un longtemps à la question. Hein. On peut écouter un patient comme un prêtre, comme un juge. C'est effroyable, bien sûr. Non, ce qu'il faut, c'est, je pense, avoir une attitude non jugeante. Mais il ne faut pas se payer de mots non plus. Hein. Le moralisme est catastrophique. Hein. On peut prendre 2 heures ou 3 heures. J'ai vu, par exemple, des psychiatres, parce que je suis dur avec la psychanalyse, mais je suis encore plus dur avec les TCC, qui ont le vent en poupe en ce moment.
Les
thérapies comportementales et cognitives. Quoi. J'ai vu aussi des psychiatres plutôt formés à ce... Et corpus théorique.
Je sais que je me rappelle, puisque je dis mon ex était psy, que effectivement c'était carrément la guerre entre les freudiens, les lacaniens et puis les reichiens et puis aussi les comportementalistes, dont j'avais quand même un peu le sentiment qu'il pouvait y avoir une concurrence limite matérielle, parce que le fait est que avec des séances courtes, on peut dire, et même de gens qui sont pas des professionnels, tu peux avoir un résultat au sens où la personne se sent mieux. Moi, je veux dire, ça m'est arrivé de pouvoir me confier. Par exemple, j'ai été victime d'une agression sexuelle de la part d'un infirmier. Tu vois, j'ai appelé SOS Viol. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui soit neutre et qui soit compréhensif. Et le simple fait de discuter, je sais pas, peut-être une heure avec une autre femme à qui j'ai dit je me sens coupable, et qu'elle me dise mais toutes les femmes qui nous appellent, elles se sentent coupables, et de pouvoir échanger comme ça, ça m'a fait un bien fou, et gratuitement, tu vois, et je sais pas, ça s'appelle même pas thérapie, mais cette écoute bienveillante et,
oui,
et vraiment de quelqu'un, enfin j'aurais pas parlé à un homme hein, par exemple, mais de quelqu'un qui me disait les mots qu'il faut, quoi, parce qu'elle avait de l'empathie, de l'écoute, ben, ça m'a fait un bien fou.
T'es tombé
je ne suis
sur
pas
une...
sûr qu'une psychanalyse de 10 ans aurait été mieux. Tu vois ce que je veux dire.
Tout à fait d'accord.
Tu es tombé sur une bonne adresse.
Ouais. Ouais, tu me donneras l'adresse, ouais. Mais mais bien sûr, là, alors le truc aussi de rationaliser les choses en disant il faut que ça dure 10 ans, 3 fois par semaine. Mmh. C'est une connerie. Il peut y avoir, ça peut être une fois, ça peut. Non, mais bien sûr, l'empathie, j'allais y venir. Mmh. Il faut cette empathie. Pas l'empathie au sens où Macron demande à ce que dans les écoles, on fasse de l'empathie. Mais ça se décrète pas, on l'a pas. Mais effectivement, qu'il y ait ce rapport sensible et authentique à la détresse de l'autre. Ça, malheureusement, aucune université ne délivre, hein, tu vois. Mais Bon, déjà, une heure, c'est pas ce que j'appelle une séance courte, hein, tu vois.
D'accord.
Quand je te parle de séance courte, aujourd'hui, moi, à ma connaissance, je connais aucun psychiatre qui reçoit un patient pour un contrôle, par exemple, de son antidépresseur ou de son neuroleptique, qui le reçoit plus de 10 minutes. Mmh. Enfin, ça doit exister, hein, mais tous les patients que je connais, j'avais des doubles prises en charge. On m'adressait à des patients, tu vois, pour un suivi thérapeutique, mais ils étaient aussi suivis par un ou une psychiatre. Elle me disait, mais il m'écoute pas, quoi. Mmh. Il m'écoute pas. C'est 10 minutes, c'est. Bon, c'était fâcheux. C'était d'autant plus fâcheux que je pense que tu parlais de transfert. Je ne suis pas certain du tout, je ne crois pas en fait, que j'ai généré beaucoup de transferts avec des patients. Je les ai écoutés, j'ai essayé d'être proche. Mais je crois que souvent, la plupart des patients ou des patientes que je voyais transféraient beaucoup plus, c'est-à-dire se sentaient beaucoup plus, disons, en confiance. Mmh. Par exemple, dans l'institution, avec des aides-soignants. J'insiste parce que pour moi, tout en bas de l'échelle, hein, vraiment, il y a les aides-soignants. Vraiment
tout en bas. C'est ce que dit Roger Gentis de mémoire, voilà, dans son livre. Je sais pas si tu te rappelles, Denis, dans son livre Les Murs de l'Asile, il y a tout un chapitre sur l'importance des aides-soignants. Tu te souviens pas? Dans Les Murs de l'Asile de Roger Gentis.
Oui, bah, Gentis me...
Voilà. C'est une référence pour ça.
Oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors moi, je suis resté, peut-être, j'ai vu un DVD qui a été fait par Jacques Pain et Polak sur Toscaïès, où à un certain moment on entend Toscaïès parler de gentils et du droit de vagabondage.
Qui est Toscaïès?
Alors Toscaïès, psychiatre antifasciste, membre du POUM catalan, qui arrive en Lozère pendant la guerre et détruit les murs de l'asile, enfin les reconstruit ou construit un nouveau modèle théorique et clinique qu'il appelle la psychothérapie institutionnelle, qui repose sur l'idée que pour s'occuper des patients, il faut déjà soigner l'institution et ceux qui la composent, soignants en premier lieu. Alors, vaste programme.
Parce que est-ce qu'elle est soignable, cette institution? Elle est peut-être le principe même est mauvais. Enfin, je veux dire, je me fais...
Alors, je vais te dire, je crois que c'est l'indication d'une tâche, pour l'instant, qui n'a pas été réalisée nulle part. Hein. Mais je vais dire, si, je pense que quand je vois, moi, ce que j'ai vu, moi, mes collègues, moi y compris, nous tous, je veux dire, ceux qui prétendent, qui ont la présomptueuse ambition de soigner les autres, doivent quand même avoir quelques regards critiques sur ce qu'ils sont eux-mêmes. Sinon, c'est une position de toute puissance, dans le meilleur des cas, je ne sais pas, de maître d'école, mais sinon, je trouve, position extrêmement obscure. Il faut se soigner, c'est-à-dire essayer de voir quels sont ses propres noyaux de folie. Donc pour ça, au moins, faire un certain travail, alors qu'on dirait analytique. Hein. Mais enfin, je veux dire, la personne qui se met à cette position de soigner, qui s'attelle à cette position-là, doit faire extrêmement attention, voilà, à ce qu'on appelle, et cette notion-là, je l'ai intégré, l'inconscient et tout ce qui va avec. Ce qui meut mon désir de soigner n'est pas si pur que ça. Donc soigner ceux qui soignent me paraît extrêmement important et politiquement extrêmement important aussi. Aujourd'hui, pour revenir à la question que tu posais sur qu'est-ce qui peut positivement soigner, je pense que... Alors je le dis en tant qu'anarchiste, mais je pense que ça devrait concerner tout le monde, toute personne travaillant dans un hôpital par exemple, c'est qu'on est obligé aujourd'hui, politiquement, quand on prétend soigner, d'aller contre une machine managériale qui est dévastatrice, qui est chronophage, qui nous demande de plus en plus d'actes. Alors je parle de la psychiatrie, mais parlons de la gériatrie. Je me souviens avoir vu une collègue psychologue isolée, complètement effondrée, déprimée, parce qu'elle me disait que les aides-soignants venaient la voir, alors en miettes, parce qu'on leur demandait, la CATSUP leur demandait aux aides-soignantes de faire des toilettes à des femmes et à des hommes, souvent grabataires, mais tout à fait conscients de ce qui se passait pour eux, de faire des soins, des toilettes en 7 minutes. 7 minutes, quoi.
Oui, c'est vrai que ça, c'est...
Donc, je veux dire, tu ne peux... Alors, une première chose, je pense que politiquement, ça suppose une résistance aussi à une machine managériale. Franchement, on aurait pu fonctionner. On pourrait fonctionner sur un mode autogestionnaire dans les hôpitaux, avec des infirmiers, par exemple.
Mais là, tu vois, tu parles, par exemple, d'un aspect médical. Quelque part, la question qui... Enfin, je veux dire, je suis d'accord avec toi sur tout ce qui peut être managérial, et même dans le domaine du soin physique, quoi. Ouais. Mais la question, c'est finalement, c'est quoi le plus d'un professionnel qui a fait des études, qui a le statut de professionnel dans une institution, et tout, par rapport à, par exemple, quelqu'un qui est bénévole dans une association d'écoute, tu vois, pour tu vois ce que je veux dire, c'est qui donc n'a aucun statut, mais tu te dis tiens, c'était un truc important d'avoir des fois d'avoir un truc d'écoute. Je vois par exemple quand j'avais accouché de mon premier bébé, les aides-soignantes par contre dans l'hôpital étaient épouvantables, c'est-à-dire que il y en a défilé pour me dire faites ci, l'autre disait le contraire, j'étais complètement perdue, j'étais en larmes, tu vois, parce qu'elle t'engueulait en plus, et puis il y en a une qui vient me dire prenez pas le bébé dans les bras, ça leur donne des mauvaises habitudes, il va devenir homosexuel, enfin bon, je veux dire
ah oui.
Oui, donc j'étais complètement déboussolée, parce que tu sais, le côté toutes ces ordres contradictoires et tout, et puis il y avait une femme qui était censée être la psy et tout, mais qui était enfin de l'hôpital, tu vois, que j'ai demandé de lui parler parce que j'en pouvais plus. Et donc, elle s'est montrée indignée à l'idée de ce qu'on m'avait dit. Elle m'a dit non, mais faut pas. Enfin, tu vois, elle m'a dit des trucs, des conseils, tu vois, simplement. À la limite, j'aurais pu demander à une copine un peu bienveillante, mais j'en avais pas sous la main. Mais je pense que si tu veux, ça n'a pas été long à ce que je me rassérène un peu, tu vois. Et je ne vois pas, comme quand j'ai eu affaire dans des institutions, quel était le plus. Ben, par exemple, par rapport à une association de malades qui s'écoutent les uns les autres, ou par rapport à des bénévoles que tu peux appeler librement à un moment où tu te sens pas bien et t'as besoin de te confier à quelqu'un, tu vois. Je sais pas. Alors, il y a effectivement le fait de se sentir pas bien, mais aussi par rapport à des gens qui ont des symptômes de, je sais pas, de schizophrénie ou des choses comme ça. Je pense à mon frère qui est diagnostiqué schizophrène. Je sais pas très bien ce que ça lui a apporté, à part que quand on lui donnait des médicaments. Donc c'est un truc médical. J'ai pas bien vu ce que ça lui a apporté d'aller dans une institution et d'aller voir des professionnels. Tu vois ce que je veux dire ?
Alors, si je devais garder, en tout cas, toute la question, c'est qu'est-ce qui est enseigné dans les facs, hein ? C'est une grande... Pas grand-chose. Je pense qu'il faudrait, en termes de formation, je sais pas si c'est aussi ta question, je pense qu'une formation de clinicien, voilà... suppose un travail personnel, déjà, un travail personnel.
Clinicien, tu veux dire celui qui donne des médicaments ?
Non, clinicien, psychologue. Je parle de psychologue.
D'accord.
Mais même un psychiatre devrait avoir travaillé, je le dis schématiquement, on devrait tous, quand on se met à travailler dans une institution, pour s'occuper de personnes, par exemple, comme ton frère, ou comme des femmes agressées, ou comme plein de choses, une personne qui fait tentative de suicide, il faut avoir fait quand même un travail suffisamment long et suffisamment charpenté pour quand même être au clair avec, on va dire, avec ses pulsions. Alors je veux pas rentrer dans des formules comme ça, un petit peu sibyllines et un peu idéales, mais je veux dire, il faut être au clair avec ce qui meut son propre désir de soigner. Parce que derrière, il y a souvent beaucoup de toute-puissance, beaucoup d'emprise et beaucoup possiblement de prédation. Je veux dire, il faut voir ce que le pouvoir...
Et tu crois que ça se soigne, la volonté d'un point de vue même s'auto-soigner, être conscient ?
Non.
Est-ce qu'on peut vraiment s'autocritiquer là-dessus ? Je connais des autoritaires, à mon avis, il n'y a pas moyen de les guérir de leur désir de pouvoir.
Alors là, c'est toute la question, c'est qui soigne qui ? C'est-à-dire que la personne qui va s'occuper d'une personne qui veut devenir soignant doit être absolument inflexible, et tu vois, et après, la toute-puissance, elle est cassée ou pas par la personne qui soigne. Évidemment, ça n'arrive pas tout le temps. Je veux dire, on est en droit d'exiger ça. Le pouvoir exorbitant que confère la position de soignant est impensé aujourd'hui. On ne peut pas imaginer le pouvoir. Enfin, bref. Mais il y a une chose que je pense qui serait presque cardinale, c'est le tact. J'ai parlé de Ferenczi la dernière fois. Tu vois, il est vraiment... Ferenczi, c'est un psychanalyste qui a fait... qui a été un peu mis à l'index après la mort de Freud. Bon, lui, il est mort un peu avant, mais disons qu'il est longtemps mis à l'index. Bon. Lui, il ne rompt jamais avec la question du traumatisme dans l'étiologie du trouble psychique en général, du trouble hystérique notamment, mais c'est quelqu'un qui a écrit un livre très important. Enfin, il y a son journal clinique qu'on peut trouver, il y a un texte, c'est une compilation de textes sur le traumatisme. Il élabore vraiment des notions qui sont encore utiles, je pense, qui ne suffisent pas, mais qui sont utiles encore, sur le traumatisme, sur ce qu'il appelle la confusion de langue entre l'enfant et l'adulte. La langue de la tendresse de l'enfant qui rencontre la langue sexuelle de l'adulte. Je veux dire, avant même les études sur la pédophilie, il pointe quelque chose. D'accord. Maintenant, je renvoie beaucoup à Françoise Sironi, qui s'est un peu éloignée de Ferenczi, qui est très très précieuse pour comprendre ce que c'est que le traumatisme. Je veux dire, il faudrait là pouvoir, je pense, se dégager un peu, prendre de la distance avec le simple éclairage analytique concernant ce qu'est la souffrance ou le traumatisme, et parler de féminisme ou de thérapie féministe. Il y a actuellement un podcast qui tourne sur Arte, qui est très intéressant, Arte Radio, sur cette question, et Françoise Sironi en parle très bien. Toutefois, Ferenczi, à cette époque, dans les années 20, 15, 20, 11, 19, voilà, il élabore quand même l'idée qu'un des axes directeurs du soin, c'est le tact. Alors je ne dis pas que ça suffit, mais dans une institution, qui que ce soit, et même des potes, quelqu'un qu'on reçoit qui souffre, si on a du tact, déjà c'est une manière de ne pas faire trop de dégâts. Tu vois, du tact, pas y aller trop brutalement. Bien sûr, on pourrait espérer, mais est-ce que c'est quelque chose qui s'acquiert avec l'analyse ? Je ne sais pas. Il faut aussi parler et concevoir l'idée d'un cadre, non pas le cadre managérial ou le cadre des hospitaliers constitué par des murs qui sont au silex d'une prison, mais je veux dire un cadre interne, c'est-à-dire jusqu'où je dois aller et jusqu'où je peux aller sans effracter le patient dans mes mouvements. Je veux dire, il y a aussi cette notion de limite. Bon, on a peu de temps pour en parler, mais je veux dire je ne sais pas si j'ai évoqué Camille Claudel la dernière fois, ou Séraphine de Senlis, et tant d'autres femmes et d'hommes qui ont passé 20, 30 ans en prison, en psychiatrie. Oui. Je veux dire, je pense que il faut sentir, et ça, alors, c'est une question qui demande aussi du temps, une élaboration et un temps élaboratif partagé, une horizontalité. J'ai rarement vu ça en réunion. Penser ensemble, co-construire une représentation du patient qui permet de sentir vraiment si là, par exemple, il peut être utile pour lui de sortir, hein, ou s'il faut encore le maintenir parce qu'il se mettrait en danger. Tu vois, ça, c'est très important. Ne pas laisser quelqu'un trop longtemps. C'est ce que tu appelais, Denis, iatrogenèse. T'aggraves les choses. Sachant que médecine de pauvre, médecine de riche. Hein, j'ai un ami qui s'est retrouvé en clinique privée. C'était cool.
Mais justement, quand tu dis ça, tu parles de la mise en danger. C'est un point de différence qui est effectivement pas seulement quantitative. Quelqu'un qui met les autres en danger ou qui se met lui-même en danger, la question ne se pose pas de la même manière, sauf que des fois, tu vas estimer que quelqu'un se met en danger ou met les autres en danger de façon complètement arbitraire. C'est ça. Et encore une fois, la question, c'est qu'est-ce que c'est le plus de l'institution ? Qu'est-ce que c'est le plus des professionnels par rapport à des gens qui ont simplement une capacité naturelle d'écoute et d'empathie ?
Le plus, c'est dans un cas où dans le cas, pour avoir connu comme toi des personnes en très grande détresse, très grande souffrance, dans le cas où la personne ne peut pas être contenue, quand je dis contenue, psychiquement contenue, émotionnellement contenue, tu vois, quelqu'un qui se désorganise tellement que l'entourage est débordé, elle ne se sent pas contenue. Parfois, on pourrait imaginer, mais ce modèle est idéal pour moi, je l'ai rêvé, je ne l'ai jamais trouvé, qu'un lieu, une institution qui ne serait pas maltraitante, pourrait prendre le relais à un certain moment, pendant 24 heures, pendant une semaine, pendant un mois, c'est-à-dire contenir, c'est-à-dire réunifier quelque chose qui serait de l'ordre d'une angoisse absolument désorganisante et catastrophique. Mais ça, Sylvie, le problème, c'est que cette institution, je la cherche encore, hein, tu vois. Alors, j'ai pas connu, moi, j'étais pas né Saint-Alban. Est-ce que peut-être, je ne sais pas, par exemple, un truc tout bête, mais Saint-Alban, sauf erreur, bon, c'était la nature était là, enfin les montagnes. Je veux dire, le truc, c'est que toutes les institutions psychiatriques que j'ai connues, y compris dans le Val d'Oise ou dans l'hôpital où j'ai bossé, enfin, je veux dire, c'était sinistre. Déjà, les patients n'avaient pas, et très infantilisant. Ça, on n'a pas assisté là-dessus. On reproche aux patients, mais c'est quasiment un double bind, de régresser, d'être dans des demandes régressives. Mais on le fait régresser.
Une double injonction, une double contrainte. Par exemple, dire, non, je dis pour les, parce que faut se rappeler quand on a soi-même une certaine culture, on a une tendance à à penser que tout le monde le sait. Je sais, enfin, je suis comme ça aussi. Tout le monde est comme ça, hein, d'avoir des évidences, on va dire. Mais donc, c'est une double contrainte. Un exemple qui va parler à tout le monde, c'est dire à quelqu'un, sois spontané.
Exactement.
Voilà, c'est plus spontané encore. Évidemment, si on te donne l'ordre d'être spontané, tu peux pas, définition. Voilà.
Ou le fameux sois naturel.
Sois naturel, sois spontané. Ouais. Voilà.
Et par exemple, souvent, j'ai vu ça tout le temps et c'est invraisemblable, quoi. Ça continue, hein. C'est-à-dire, on reproche à un patient d'avoir des demandes régressives. Est-ce que je peux aller fumer une cigarette ? Parce qu'il faut demander la permission, faut demander la permission pour aller fumer une clope et descendre en bas. On leur reproche d'être dans une demande infantile, mais en fait, on les fait régresser sans arrêt. On les infantilise puisqu'on leur demande de demander la permission. C'est-à-dire que si quelqu'un sort, tu vois, et qu'il va vagabonder, on considère que c'est une fugue. Donc on le punit, tu vois. Il y a un hôpital de banlieue nord où tu trouves dans la chambre d'isolement des émoticônes, tu vois, à destination des patients. On peut penser aux chiottes de Saint-Lazare, on demande aux gens d'évaluer la propreté. Je veux dire, cette infantilisation, par exemple, elle est désastreuse, elle est catastrophique. Mais on pourrait imaginer que ce soit autre chose, le soin. On pourrait imaginer, mais c'est un modèle aussi idéal qu'une société sans classe, quoi. C'est-à-dire que je cherche encore et je vois pas comment on ne peut pas... Alors effectivement, j'ai une position là-dessus révolutionnaire, mais que j'assume. C'est-à-dire qu'il faut effectivement casser cette verticalité managériale. Pas pas par ivresse, tu vois, mais parce que ça fait du mal, parce que ça empêche le soin. Déjà que c'est pas simple avec les positions subjectives de chaque soignant pris dans cette espèce de mouvement qui est déjà, lui, vertical, je te soigne. Mais alors, si en plus, on y rajoute, un système de DRH, tu vois, Parce que c'est ça aussi, tu vois, qui vient écraser tout. Mais enfin, pour répondre à ta question, je pense que dans des moments qui sont des moments absolument explosés, où la personne est complètement anéantie, alors, si elle le demande, je ne nie pas, comme certains antipsychiatres ont pu le faire en Angleterre, tu vois, qu'il n'y a pas un pôle objectif de la maladie mentale, ou qu'il n'y a pas un pôle objectif de la folie. Je crois que la folie, ce n'est pas quelque chose qui... Alors moi, simplement, je pense que la folie peut surgir chez n'importe lequel d'entre nous, plus ou moins. Mais je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire que c'est la société qui fabrique la folie. La folie, elle existe. La souffrance, elle existe. Mais après, c'est comment on y répond. Si on y répond d'une manière autoritaire, on l'aggrave, et puis on la chronicise, et puis et c'est effroyable. Mais je pense que la réponse devrait être... Alors, je ne vois aucun lieu qui fait que la réponse pourrait être humaine, pourrait être sensible. Par exemple, moi j'ai vu, je vois, je continue de voir, puisque je continue à bosser, mais ailleurs, en assos, je vois que beaucoup de... Alors d'aides-soignants, beaucoup de d'art-thérapeutes, enfin ceux qui font de l'art par exemple, arrivent, mais tellement mieux que moi, et tellement mieux que les psychiatres, à établir un contact vivant avec les patients qui tout d'un coup se réaniment. Je pense à des patients, par exemple, très mélancoliques, qui tout d'un coup se réaniment. J'avais un ami art-thérapeute qui est mort, qui faisait un travail sensationnel et qui créait la haine des psychiatres et des psychologues et des ergothérapeutes parce qu'il y arrivait là, nous on n'y arrivait pas. Et puis encore, alors, toute la question par contre, alors je pense aux aides-soignants qui sont des camarades, qu'on ne compte pas. Même les infirmiers sont plus comptés que les aides-soignants. Un jour, j'ai été voir le psychiatre, je lui ai dit, mais en fait, pourquoi ils ne sont pas les aides-soignants ? J'ai été voir le chef de service. Pourquoi les aides-soignants ne sont pas en réunion de synthèse, en réunion hebdomadaire ? C'est eux qui tiennent les murs. Et il m'a répondu, non. Ceux qui tiennent les murs, c'est les psychiatres. Tu vois ? C'est-à-dire que moi, en tant que psychologue, j'étais là, quoi, trois fois, et encore, pas tout le temps, trois fois dans la semaine, quoi. Les aides-soignants, ils sont là du matin au soir.
Mais ça me semble être la conséquence logique d'avoir un statut. Je me demande, justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, est-ce que par essence, une institution, un professionnel, ne peut être que abusif, enfin, ne peut que provoquer que de la hiérarchie et des abus. C'est pour ça que quand je te parlais des bénévoles, même quelqu'un qui serait, par exemple, je pense à mon fils qui a fait aucune étude, mais qui a beaucoup d'empathie naturellement, tu vois. Il a accompagné une femme qui a des problèmes comme ça psychologiques, quoi, tu vois, et il lui a fait vraiment du bien. Si tu veux, elle osait à peine sortir toute seule, il l'a vraiment accompagnée parce qu'il a ça dans lui, tu vois, d'avoir vraiment de l'écoute, de l'empathie, etc. Mais le rapport n'était pas le même qu'elle aurait eu avec quelqu'un dont c'est le statut, tu vois. Je vois pas comment ça peut se passer bien et dans un cadre d'institution comme ça. Voilà, j'ai l'impression que c'est comme vouloir moraliser le capitalisme ou je sais pas. Enfin, tu vois, ouais. L'institution, elle me paraît toxique par essence.
Oui, mais si on est... Alors, encore une fois, ça serait encore... surestimer la valeur de l'engagement révolutionnaire, puisqu'on peut trouver dans le milieu militant des autoritaires qui s'ignorent, tu vois.
Qui s'ignorent pas forcément.
Enfin, on peut imaginer que coexistent, tu vois, un inconscient fasciste et un système conscient révolutionnaire. Mais en tout cas, si on a une position déjà révolutionnaire et qu'on veut casser la verticalité déjà dans une institution, c'est un premier pas, ça ne suffit pas. Ensuite, je pense qu'il faut avoir du tact. Je me repose sur ce mot un peu trop, mais le tact, c'est-à-dire déjà, c'est quelque chose qui quand même fait contrepoids à la brutalité soignante. Cette brutalité-là, tu vois, du diagnostic, par exemple. Moi, j'ai vu des femmes arriver avec leur fils, quand on entendait des voix qui déliraient, puis j'ai vu des psychiatres poser avec une violence, mais tu vois, dire, votre fils est schizophrène, mais la mère était décomposée, quoi. Cette absence de tact, c'est un peu comme quand on fait un diagnostic, dans les années 80, quand on annonçait à quelqu'un qu'il était séropositif, tu vois, et puis qu'après, on le laissait partir. C'est horrible, quoi. Donc, du tact.
T'as pas besoin d'avoir un statut particulier pour avoir du tact. C'est pour ça que je te parlais de mon fils.
Mais
il est pas, il a fait ce qui s'appelle rien du tout. Il a même pas le bac. Enfin,
maintenant,
il y a des gens qui ont une capacité d'écoute et qui n'ont aucun statut. C'est hors toute espèce de cadre. Et c'est pour ça que je te parlais aussi des numéros d'écoute, tu vois, pour les femmes battues. J'ai appelé moi-même d'ailleurs aussi un numéro comme ça, tu sais, pour une copine qui est battue et qui m'avait demandé de le faire, etc. Tu vois. Et la personne avait vraiment, d'ailleurs, elle a passé des heures au téléphone. Tu vois, enfin, je veux dire, c'était quelqu'un sur un truc d'écoute et qui n'était pas ni institutionnel ni professionnel. Donc, est-ce que de toute façon, le fait d'avoir un statut, enfin, c'est un peu la poule et l'œuf. Dès que tu as un statut, est-ce que tu te places pas de toute façon au-dessus de la personne? C'est ton boulot, tu as fait des études, tu sais diagnostiquer ce qu'elle est, la personne. Enfin,
et encore,
t'as un rapport inégalitaire obligé.
Oui, il y a une dissymétrie. Alors cette dissymétrie, il faut la réduire autant que possible. Tu vois, elle existe, mais il faut la réduire autant que possible. Je veux dire, si là je m'effondre en larmes devant toi, forcément la dissymétrie sera là si tu ne pleures pas. Enfin, mais il faut faire attention que cette dissymétrie soit pas autoritaire. Je veux dire, mais je te l'accorde, il y a quelque chose qui est corrupteur dès lors que tu es dans cette position.
Non, je trouve pas qu'il y a dissymétrie. Enfin, je veux dire, ça nous est tous arrivé de consoler un copain ou une copine qui avait un malheur quelconque, et t'as pas une impression de dissymétrie.
Oui, parce qu'on n'est pas dans le cadre institutionnel. Hein? Parce qu'on n'est pas dans le cadre institutionnel.
Oui, et puis parce que demain, c'est peut-être moi qui vais me mettre à pleurer. Et puis j'aurai besoin d'un coup. Tu vois, c'est pas un truc.
Mais dans le cadre institutionnel.
C'est pas ta fonction de consoler les gens qui pleurent en général. C'est là aujourd'hui, c'est toi qui pleures, et puis demain, ça se trouve, c'est vraiment.
C'est pour ça que depuis le début, on questionne ce entre le soignant et le patient, ce rapport de pouvoir qui peut exister.
Alors c'est ce qu'il faut réduire. C'est ce qu'il faut réduire. Quand je parle de dissymétrie, je me réfère à l'institution. Je veux dire, ce rapport de pouvoir, les conditions de possibilité sont réunies pour qu'il soit là, ce rapport de pouvoir. Du simple fait que, par exemple, dans la salle de transmission, tu vois, quand tu es par exemple dans l'intra-hospitalier, les patients doivent frapper pour rentrer. Par contre, quand les soignants rentrent, les trois quarts du temps, ils oublient de frapper. Hein. Donc, la dissymétrie, elle est là. Même avec les meilleures intentions du monde, si tu veux, elle est là. Il y a des espaces qui sont symboliquement, disposés de telle sorte que c'est une violence. Par exemple, voilà, la salle de transmission, la salle du psychiatre, tu rentres pas comme ça. Enfin, tu as des espaces qui sont chargés, tu vois, qui sont chargés de certaines intensités, qui sont des intensités micropolitiques. Tu fais pas n'importe quoi, tu te déplaces, tu sens bien que le patient, il n'est pas à la même position. Je te parle pas simplement de position de souffrance, mais de position de statut, de position... J'arrive pas à séparer le politique et la clinique, tu vois, mais... Ce que je veux dire, c'est que voilà, tu arrives dans une institution, tu es t'as un diplôme de psychologue. Je veux dire, si tu n'es pas au clair, si dans ton travail personnel, ta propre trajectoire analytique, c'est-à-dire, je ne sais pas, politique, peu importe, subjective, éducative, tu es pas au clair, mais effectivement, tu trouves les conditions pour exercer à ton tour une autorité qui sera, voilà, ce qu'on pourrait appeler une chaîne de tyranneaux. Tu deviens toi-même un petit tyran, exerçant des mécanismes d'emprise. Mais cela, je pense qu'on peut, on devrait pouvoir, par exemple, analyser l'institution, devrait être cela, par exemple. Des analyseurs institutionnels qui ne seraient pas faits par des cabinets d'audit de merde, mais qui seraient faits par des gens au sein de l'institution, examinant, par exemple, quand il y a un suicide, par exemple, quand il y a une souffrance, quelqu'un qui s'effondre, quand on isole quelqu'un, puisque tout est très clivé, hein. La 4SUP, le DRH, tu vois, le fait qu'il y a les paramédicaux et les médicaux, déjà, ça crée des lignes de clivage, des lignes de fracture, tu vois. Voilà, je te dis, la dernière fois, je racontais que moi, on m'avait demandé de pas manger avec les infirmiers, tu vois. Je veux dire, bon, appelons ça un analyseur institutionnel, c'est-à-dire un groupe de travail de gens qui ne seraient pas composés de psy seulement, qui seraient composés d'aides-soignants, éventuellement de psy s'ils veulent, de cuisiniers, j'en sais rien, d'infirmes, tout le monde réfléchissant ce qui est en train de se passer là. Ce qu'on pourrait appeler une auto-réflexivité, tu vois.
De même, oui, alors dans un contexte institutionnel, des situations, par exemple, comme là où tu parlais tout à l'heure d'art-thérapie, ou même il peut y avoir des séances de gymnastique ou des séances de danse ou des choses comme ça. Ce rapport-là, soignant-soigné, eh bien, est toujours là, malgré que ce soit des ateliers où on est censé, bon, disons, être d'égal à égal. Il y a toujours quelqu'un qui anime et des gens qui sont animés.
Oui. Après, et tu vois, c'est comment on anime. Oui. Ce qu'on peut, tu vois, le grand truc de faire, tu vois, de déplacer la souffrance. J'ai vu ça du côté du stade de football, tu vois, ou de faire des dessins de mandala, tu vois, des trucs qui donnent juste bonne conscience aux cons, tu vois. Je veux dire, je parle des soignants. Je veux dire, moi, ce qu'on me demandait de faire d'organiser un match de football, tu vois, avec les. Tu vois, mais les patients ne demandaient pas spécialement ça, tu vois. D'abord qu'on les laisse tranquilles, qu'on les laisse descendre fumer, puis et s'ils dessinaient, que ce soit plus libre. Par exemple, on demandait aux patients de. Bon, il y a des patientes qui voulaient juste afficher leurs dessins sur leurs œuvres sur le mur.
Mais
c'était interdit.
Je vais être plus clair dans la façon dont je ressens les choses par rapport à l'institution et surtout par rapport aux professionnels. Tu parles toi-même des aides-soignants, je t'ai parlé de gens qui ont juste une capacité d'écoute et tout. En un mot, commençant, à quoi que ça sert d'avoir fait des études de psy, d'avoir un statut de psy et des, enfin, parce que tu saurais mieux, quoi, tu vois. À quoi ça sert finalement? Ça sert à rien, puisque effectivement, si les aides-soignants ou si des gens qui sont des amateurs entre guillemets arrivent à guérir, enfin peut-être pas non, guérir, mais enfin à faire du bien autant, à quoi ça sert à part les médicaments?
Alors là, peut-être
que... il faut que tu sois, t'aies fait des études médicales, mais alors, sur le plan psychologique, à quoi ça sert d'être psy?
Alors, justement, sur la question de l'institution, je pense que
ça
sert à quelque chose, mais ça ne suffit pas. C'est comme ça que je dirais les choses.
Et donc ça ne
suffit pas. Alors, je ne suis pas en train de dire que, par exemple, il y a un corps de métier qui soigne mieux que l'autre. Je pense que c'est plutôt ensemble qu'on peut-être faire du bien. Mais des conneries, on en fait. J'en ai fait, tu vois, avec les patients déjà.
Non, c'est pas l'écoute du truc, le côté négatif.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être
c'est
que.
Positivement, c'est
voilà.
Quoi l'apport?
L'apport, c'est peut-être une compréhension, mais pour ça, après, c'est quel texte on choisit. Par exemple, moi, Lacan ne met d'aucune utilité. Ces jeux de langage. Me fatigue, me donne la migraine. Bon, ça ne m'aide aucune utilité. Mais par exemple, il y a des auteurs qui continuent de m'être très utiles.
Tu peux donner des exemples?
Oui, par exemple René Diatkine, par exemple, qui a travaillé sur qui a fait un travail gigantesque, notamment aussi au niveau du conte du soin. Winnicott, tu vois, avec son espace de jeu, l'idée que
c'est celui qui avait fait l'effort pour rendre d'autres fous.
Non, ça c'est Searles, mais il m'est aussi très utile. Mais par exemple Winnicott, qui amène une idée, un modèle théorique qui n'est pas celui du rêve, mais que celui du jeu, mais d'un jeu qui est conçu comme un espace, on va dire un espace intermédiaire où la pensée peut être relancée. Je le dis schématiquement à ma manière. Il y a quelque chose du processus de pensée qui peut de nouveau se nouer entre le sujet, enfin le patient, et puis disons l'autre, les autres.
Tu peux donner un exemple qui va apporter quelque chose?
Alors lui, il a beaucoup travaillé. D'abord, il vient de la pédiatrie, puis ensuite il a été avec des analyses d'adultes, mais s'apercevant que les enfants ne pouvaient pas librement associer dans les séances comme le font les adultes sur leur propre fantasme, il avait établi un modèle extrêmement intéressant, le Squiggle, qui me fait penser un peu à ce qu'était le cadavre exquis chez les surréalistes, c'est-à-dire tu commences à dessiner quelque chose et puis associativement, librement, spontanément, tu vois, l'enfant dessine sur ce que tu as dessiné et ainsi de suite. Et se constitue là quelque chose comme une sorte de chimère, de créature, de Merzbau, tu vois. Et à partir de là, quelque chose comme un plaisir de penser ER, tu vois, et de jouer, tu vois, de penser au sens de jouer, hein, tu vois, se constitue ou se reconstitue, étant entendu que quand tu vas mal, il est bien difficile de penser, tu vas mal, tout effondre, tu vois. Bon, je veux dire que ce modèle-là théorique est intéressant parce que si on le généralise là, dans le soin adulte, quand tu es en entretien avec quelqu'un, que tu parles, bon, tu joues, mais pas sur un mode maniaque, pas sur un mode désorganisé. Mais par exemple, chacun amène une idée, tu vois. De cette idée, disons, autre chose arrive, tu vois, mais qui n'est pas prédéterminée dans la discussion. Il y a quelque chose qui se constitue, un entre-deux. Bon, c'est ce que Winnicott appellerait une transitionnalité, un espace intermédiaire. Enfin,
Et donc concrètement, ça aide. Par exemple, l'enfant, en dessinant comme ça, si, admettons, il a été abusé psychologiquement ou même physiquement, il va le révéler par le dessin.
Non, alors là, c'est pas aussi caricatural que ça, au sens que je veux dire, ça, c'est la lecture. Si des psys se comportent encore comme ça, en interprétant grossièrement un dessin, en disant, bah, tu vois, là, c'est la bite du père, tu vois, et là, c'est, tu vois, bon, bah, alors ça c'est caricatural, tu vois. J'ose espérer, enfin, malheureusement j'ai l'impression que ça existe encore, mais que c'est pas aussi grossier. Quand je te dis il faut prendre son temps, alors je reviens à ta question, en quoi ça aide? Je pense qu'il y a quelques modèles théoriques, mais chacun a ses options, qui peuvent nous aider à avancer. Par exemple, la question de la limite chez Green, avec certains patients. Et c'est pour ça que ça suffit pas d'être ou être soignant pour bien s'occuper des gens. On peut être soignant et maltraitant, et psychiatre et maltraitant, et inversement. Mais on peut être aussi bienveillant. Mais il est important quand même de maintenir certaines limites aussi avec les gens dont on s'occupe. Certaines limites. Avoir quand même conscience que, avec certains patients, il peut y avoir des moments très régressifs, des moments de demande affective qui peuvent être extrêmement glissantes, tu vois, et il faut faire attention, et donc avoir observé certaines limites. Alors, je ne sais pas si être psy permet de penser ses limites mieux que si tu étais simplement un copain ou un soignant, mais peut-être. Toute la question, c'est qui pose les limites et comment. Mais je veux dire, tu vois, je vais pas dire en quoi psy c'est mieux ou moins bien que être soignant ou psychiatre ou art thérapeute. Je veux dire, c'est ensemble que je pense les choses, tu vois, ensemble. Dans une institution qui serait effectivement proprement révolutionnaire, enfin, parce qu'elle n'existe pas.
Je vois bien l'intérêt des aides-soignants et je vois pas celui des psys pour être encore plus carré.
Mais les psys, je sais pas ce que ça veut dire, puisque la plupart de ceux que j'ai rencontrés me donnaient froid dans le dos, mais je veux dire. L'idée peut-être que l'inconscient est toujours là, plus ou moins aux commandes, que l'inconscient est malin et qu'il joue des tours. Une fois que tu as dit ça, tu n'as un peu rien dit. Mais je veux dire, il faut faire attention quand même toujours un peu à ce qu'on fait. Alors, je reviens de façon un peu obsessive sur la question du tact. Alors, dans ce que j'appellerais, mais peut-être que c'est ma façon à moi d'utiliser la psychanalyse d'une manière un peu oblique et un peu hérétique, je pense qu'on devrait pouvoir analyser toujours ce qui se passe dans une situation. Alors peut-être point n'est besoin d'être analyste, mais dans une insurrection armée, tu vois, tu renverses ou tu attaques un dispositif autoritaire étatique, t'as pas besoin de psy, c'est pas ça. Mais là on est dans le
non, mais je m'en doutais. Hein, moi,
mais
je
là on est dans
des,
mais
le,
là on là on est dans
l'idée un, du soin.
Voilà,
justement.
Mais là on est dans un contexte qui est celui d'un effondrement, par exemple. Tu vois, d'une personne qui s'effondre, qui va très mal. Mmh. Maintenant, je voudrais quand même dire une chose, mais juste, tu veux me dire si c'est hors propos, mais je reviens sur la question de l'enfermement. Moi, il y a un truc qui me pose problème, c'est pourquoi on hospitalise, je veux dire, parce que c'est une question qui est très importante pour moi. Il y a des personnes qui vont aller mal, mais qui n'ont pas nécessairement besoin qu'on les hospitalise. Elles peuvent traverser des moments régressifs extrêmement forts. Je dis ça parce que je reviens d'une manière qui m'est toute, parce que personnellement ça me touche, mais Camille Claudel va très mal à un certain moment, très très mal. Elle va très mal, hein, pour plein de raisons, pour des raisons qui sont familiales, mais qui sont aussi artistiques. Elle n'est pas reconnue, affective. Elle s'effondre, elle devient, dit-on, c'est ce que Agarde, incurique, elle se nourrit plus. Son père meurt en 1913, 2 semaines après, elle est hospitalisée, 27 ans. Je veux dire, tous les commentaires, sa mère, la propre mère, qui était très, très autoritaire avec sa fille, elle dit, mais ma fille se nourrissait plus, etc. Plein de gens disent, ça va pas. J'ai écouté une émission sur Camille Claudel qui s'appelle L'or de Camille Claudel, à un certain moment. Je sais plus, peut-être une psy, je ne sais pas, dit oui, non, mais elle allait pas bien, etc. Elle allait pas bien, elle se clochardisait, etc. Bon, et alors, tu vois, une personne peut traverser un moment régressif, se clochardise. Est-ce que la seule réponse qui doit être faite, c'est l'enfermement? Et ça, pour moi, c'est une question qui n'est pas tranchée encore. Je pense qu'il y a des moments où on pourrait prendre en charge quelqu'un. Par exemple, dans le cas de Séraphine de Senlis, elle décompense sur un mode, on va dire, très délirant à un certain moment. Elle vivait dans un village. Elle aurait pu être prise en charge par le village. Elle faisait de mal à personne. Elle délirait. Tu vois, c'est une autre question, ça encore. L'hospitalisation systématique me paraît poser plus de problèmes aux patients qu'il n'en résout.
Oui, on conseille d'ailleurs le film Séraphine avec Yolande Moreau dans le
très rôle. Beau film, mmh. Ouais, très très beau film. Ouais. Ouais. Séraphine de Senlis, donc cette artiste qui a vécu au début du siècle, du XXe siècle. Et avec, oui, film très beau avec Yolande Moreau, ouais. Très, très intéressant.
Nous avions une annonce à faire à Publico.
Oui, oui, pour le groupe Libertaire d'Ivry, donc, dont je fais partie, ainsi que Laurent de Publico, on organise, enfin, entre autres, hein, on organise dimanche prochain à la librairie Publico une discussion autour d'un livre qui s'appelle Te plains pas, c'est pas l'usine, où il est question de la, puisqu'on parle de souffrance, de l'exploitation en milieu associatif, de la souffrance spécifique qu'on peut ressentir quand on est dans ce type de contexte, quand on travaille dans ce genre de contexte. Et donc, on en avait déjà organisé une où c'était vraiment très intéressant parce que justement, en parlant de pouvoir un peu se confier, s'exprimer, hors de tout cadre institutionnel, puisque il y a les discussions pour nous sont jamais dirigées, hein, c'est vraiment un échange. Ça permet quand même un peu de se soulager de sa souffrance simplement en s'exprimant. J'en profiterai probablement pour exprimer des choses personnellement que j'oserais pas exprimer publiquement parce que ça fait partie de la souffrance. On est obligé un peu de fermer sa gueule, quoi. C'est quand pour pas mettre en danger l'association. Par exemple, dont on fait partie.
Donc, il n'y a pas que dans les entreprises qu'on se fait exploiter.
Voilà, loin de là même. Il y a même une exploitation spécifique. Donc, c'est dimanche prochain à la librairie Publico, 145 rue Amelot, métro République Oberkampf, fille du Calvaire. Et donc, on accueille à partir de 15h et on commencera vraiment la discussion à partir de 16h.
Ouais. Voilà, ok, merci. On sera le 2 juin. Et bah, juste, moi, je fais une annonce aussi un peu rapidement. C'est l'invitation Contenir la contention que j'avais annoncé déjà la semaine dernière. Donc une journée d'information et de rencontre pour un soin psy sans contrainte, samedi 8 juin à la Friche Lamartine à Lyon 7e, de 11h à 21h, samedi 8 juin, donc sur la contention. Voilà. Et bah, je sais pas, un petit mot pour la fin peut-être.
Vas-y, ta conclusion.
Ma conclusion.
Oui, bah, je sais pas où.
Casser les verticalités autoritaires.
Oui.
Et abat le management.
Par la terreur et le management tout court peut-être.
Oui, tout court
peut-être. Hein, court. Il est terrorisant.
Et donc, c'était l'entonnoir, mission critique de la psychiatrie. Et nous vous disons à la semaine prochaine.
Je vis chez mes enfants parce qu'on me trouve perlaude. Ils me coupent du pain blanc, rapport à mes dents. Ils me donnent de la soupe, pain grasse et pain chaude, et du vin avec deux bouts de sucre dedans. Ils font du pain aise, rapport à mon âge, mais ça c'est le médecin quand des causes bien sûres. Ils m'enferment dans le clos comme une bille en cage, et je peux pas aller plus loin les quatre murs. La porte, ils veulent pas me l'ouvrir. La porte, quoi que je les ai fait, qu'ils veulent pas que je sorte. Mais ouvrez la mouée donc, la porte. Et les beaux faucheux qui partent en besogne, non je sais pas berlaude, j'ai tous mes esprits, je suis même corps solide et j'ai forte pogne. Si vous faut quelqu'un pour gerber, venez me crier. Je voudrais bien aller au champ comme tout le monde, j'ai honte de rester comme ça sans œuvrer. À cette heure qui fait doux et que la terre est blonde, si vous me défermez, c'est vous qu'hériterez. La porte, ils veulent pas me l'ouvrir. La porte, quoi que je les ai fait, qu'ils veulent pas que je sorte. Mais ouvrez la mouée donc, ouvrez-la, moi donc, la porte. Et mon beau Jean-Pierre, qui est déjà qui fauche, ils disent que je sais vieille, mais tu sais ben que non. À preuve, c'est que je sais corps, si tellement gauche, que je fais le coquelicot en disant ton nom. Va, je nous marierons tout de même et quand même, malgré que t'es pas de coué pour la dot que j'ai. Viens t'en me défermer si c'est vrai que tu m'aimes, et courons acheter le bouquet de rangée. La porte, il veut pas me l'ouvrir, la porte, quoi que j'y ai donc fait, qui veut pas que je sorte. Mais ouvre-la mouée, ouvre-la mouée donc, ouvre-la mouée donc, la porte. Mais le galant que j'appelle, c'est défunt mon homme. Mais les beaux faucheux passent pas de ce temps-là. Mais ça serait donc vrai que je serais berlot de com'. Il raconte terre tout, il fait du verglas. Pourtant y'a quelqu'un qui passe à la porte, c'est monsieur le curé, les chantes et le bedion, qui viennent défermer sur terre les vieilles mortes pour les renfermer dans le champ au navio. La porte, on me l'ouvrira bien, la porte, jour de l'enterrement, faudra ben je sorte. Et vous l'ouvrirez ben, vous l'ouvrirez que je dis, la porte.
Soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Aux énusants, tu cassures.